dans le monde entier, des hommes et des femmes, des personnes de tout âge, ont témoigné de la grandiose manifestation de la présence de Dieu, de sa puissance et son amour, transcendant les simples paroles, les paroles au-delà des écrits. Pourquoi nous prêchons comme cela? Pourquoi nous parcourons le monde en prêchant l'Évangile? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissé avec un message d'annoncer à ceux qui n'ont jamais entendu. Un message pour le monde entier. Ce message de foi envers Dieu et de sa parole infaillible est apporté pour causer des changements dans la vie de millions de personnes à travers le monde. Et l'amélioration notable dans la vie de ces personnes attire de plus en plus de foules pour assister aux réunions de l'homme de Dieu, en sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, on vous apporte un extrait d'un service spécial avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, digne d'écoute. Être un enfant de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Donc, si le Saint-Esprit doit rendre témoignage de la chose la plus importante de votre vie, à votre esprit en vous, à combien plus forte raison le fera-t-il pour les choses de la vie? Apprêtez-vous à être éduqué sur la chose la plus importante de votre vie. Mais la plupart des gens ne savent pas cela, car ils n'ont jamais éduqué leur esprit. Et votre esprit humain peut être éduqué, de même que votre intelligence peut être éduquée. Donc, trouvez le guide parfait pour faire les bons choix et prendre la bonne direction dans votre vie. De nombreuses personnes sont dirigées par leur intellect et ils font beaucoup d'erreurs. Il rend témoignage à votre esprit que vous allez ou non dans la bonne direction. Aucune personne conduite par le Saint-Esprit ne peut échouer. Vous serez toujours victorieux, en dépit de vos circonstances. Pasteur Chris enseigne sur être conduit par l'Esprit.
J'aimerais parler d'un sujet que je pense être très important pour un enfant de Dieu. Car le plus souvent, il y a beaucoup qui ne savent pas, après qu'ils soient devenus chrétiens, comment s'aligner avec les choses de l'Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas votre corps qui est né de nouveau. Ce n'est pas votre pensée qui est né de nouveau, mais votre esprit. L'homme est un être spirituel. Il est d'abord un être spirituel. Il a une âme. L'âme est le siège de son intelligence, de ses émotions et de sa volonté. Ainsi, la Bible parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Et je vous l'avais déjà expliqué. L'homme intérieur est l'esprit humain et son âme. L'homme extérieur est le corps physique et ses sens. Avec votre esprit, vous pouvez entrer en contact avec Dieu et le règne de l'esprit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec votre corps. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec votre intelligence. Vous ne pouvez pas connaître le règne spirituel avec votre pensée ou votre corps, mais uniquement avec votre esprit. Et c'est lui le vrai vous. C'est le vrai homme, c'est la personne réelle. Mais avec votre âme, là où se trouve votre intelligence, vous entrez en contact avec le monde intellectuel. C'est là que vous raisonnez. Vous comprenez? Vous raisonnez. Vous prenez des décisions. C'est là que se trouve votre volonté. Avec votre âme, vous entrez en contact avec le règne de l'intelligence. Par exemple, quand quelqu'un vous parle et que vous essayez de raisonner au même moment pour savoir ce qu'il dit, c'est votre âme qui fonctionne. C'est votre âme qui fonctionne en ce moment. Quand vous entrez en contact avec le règne de l'intelligence, avec des choses que vous ne pouvez pas toucher, par exemple, si je vous disais que le tapis sur le podium, ici, est bleu, vos yeux ne savent pas qu'il est bleu. Vos yeux peuvent voir sa couleur, mais ils ne savent pas ce qu'est le bleu. Votre intellect doit être entraîné à savoir que cette couleur est appelée bleue. Donc vous saisissez cette information dans votre intellect, et à chaque fois que vos yeux voient cette couleur, vos yeux vous enverront le message que la couleur est bleue. C'est votre intellect qui est à l'œuvre. Votre intellect a été entraîné. Par exemple, si je vous disais qu'il y a un camion vert dehors, vos yeux ne peuvent pas voir le camion. Mais votre intelligence peut s'imaginer ce qu'est un camion et ce qu'est la couleur verte, car vous avez été éduqué dans votre intellect à savoir et à reconnaître la couleur verte et aussi à quoi ressemble un camion. Si vous n'aviez jamais vu un camion de votre vie et que vous n'avez jamais été enseigné sur les couleurs, vous ne connaîtrez jamais les noms des couleurs. Et si je vous disais qu'il y a un camion vert dehors, vous ne le comprendriez pas. Je serais un barbare pour vous et vous serez un barbare pour moi. Vous ne sauriez pas de quoi je parle. Car voyez-vous, votre intellect n'a pas été entraîné. Vous comprenez? Et même si le camion venait à se garer devant vous, de telle sorte que vous le voyez, et les couleurs également, si vous ne saviez pas que ça s'appelait un camion, vous penseriez que c'est un véhicule monstrueux et vous seriez même tenté de fuir. Parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas éduqué. Je me rappelle il y a quelques années quand j'étais gamin. Et certains parmi vous, ou peu d'entre vous peut-être le sauraient, ces grands écrans télé noirs et blancs qui avaient été fournis par le gouvernement et vendus partout dans le pays pendant la préparation du tournoi des Jeux africains. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, certains parmi vous. Donc, nous en avons eu à la maison. Il y avait un jeune homme qui arrivait du village et n'avait jamais été en ville auparavant. Puis le journal télévisé était diffusé. Il y avait un monsieur qui lisait le journal à l'écran. Et ce jeune homme, au moment où il descendait de la voiture, et d'ailleurs c'était aussi la première fois qu'il montait dans une voiture, il est arrivé pour la première fois en ville. Et il nous aidait à faire sortir les affaires de la voiture. Puis il est entré au salon. Et au moment où il a vu un homme passer à la télé, un homme dans une sorte de boîte, il a hurlé et fait tomber ce qu'il portait, en criant qu'il y avait un homme dans la boîte, pour ensuite fuir. Vous voyez, il n'était pas éduqué à propos de telles choses. C'était sa première fois. Il fallait qu'on le fasse revenir à la maison et lui expliquer que c'était tout à fait normal. En fait, pour nous qui étions là, c'était normal. Si se trouve quelqu'un ici, laissez-moi vous raconter ma première expérience avec la télévision. L'écran était là, mais on ne savait pas trop ce qu'était la télé. Ils nous l'avaient juste livré dans ces boîtes. Ok, c'était de larges boîtes à l'époque. Et nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous étions tous assis autour de cette grosse boîte. Et nous étions fascinés par toutes ces choses. Vous savez, juste le bruit. Il n'y avait pas de musique. Et ces images en noir et blanc, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Il n'y avait pas encore d'émission. Nous étions juste assis là, rien ne s'affichait sur l'écran, mais nous étions là, fascinés. Et d'un moment à l'autre, alors qu'on se plaignait que ça devenait trop long, et nous ne savions pas à quoi nous attendre, parce que nous n'étions pas éduqués quant à ça. Vous comprenez? Mais quand le programme a commencé, nous étions fascinés de voir ces choses. Waouh! Vous voyez, l'éducation de votre intellect, l'éducation de votre intelligence, très important. Et beaucoup d'entre vous ont dépensé beaucoup d'argent pour éduquer votre intellect dans différentes écoles, et c'est très bien. Et certains d'entre vous ont dépensé de l'argent pour votre corps, afin que votre corps physique paraisse plus fort. Vous avez développé vos muscles. Vous voyez, vous appréciez vous regarder dans un miroir et voir comment vous devez encore bâtir votre buste pour avoir un corps en V ou quelque chose du genre. Vous savez? Oui. Mais pensez à cela. L'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit. Et si vous éduquez votre corps, éduquez votre intelligence, éduquez votre intellect et manquez d'éduquer votre esprit, vous êtes fini, voyez. Et c'est là où la plupart des gens s'arrêtent. Ils n'ont jamais éduqué leur esprit humain. Et Dieu n'est pas un corps. Il ne fonctionne pas dans le règne de l'homme physique. Il ne traite pas avec votre corps, ni avec votre intellect. Laissez-moi vous lire quelque chose dans les Écritures. Ce que la Bible dit ici. Allez dans Proverbes, chapitre 20. Proverbes, chapitre 20, et le verset numéro 27. Lisez pour moi, c'est affiché sur l'écran. 1, 2, allez. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Cela signifie que c'est là où Dieu vous guide. La lampe représente la lumière. C'est là que se trouve la lumière de Dieu dans l'être humain. C'est là où Dieu vous guide. C'est dans votre esprit, pas votre intellect. Plusieurs personnes sont conduites par leur intellect et ils font beaucoup d'erreurs, de terribles erreurs, qui aboutissent à une frustration dans leur vie. Saviez-vous combien de personnes ont fait des investissements à perte? Beaucoup ont commis le suicide. Ils se sont donné la mort. Ils ne pouvaient plus supporter. Ils ont perdu beaucoup d'argent et ont fini dans la frustration. Et ceux qui se sont engagés dans des business dans lesquels ils n'auraient jamais dû, parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne comprenaient pas ce sujet. Êtes-vous toujours là? Oui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, commençons à partir du verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, quoi? Ils sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu veut vous guider à travers votre esprit, par le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle il vous guide par le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit vit dans votre esprit. C'est là qu'il demeure, pas dans votre corps, pas dans votre intelligence. Le Saint-Esprit vient vivre en vous, dans votre esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il veut vous guider. À travers votre esprit, il a dit l'Esprit de l'homme. Comprenez ceci, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme, nous avons lu dans Proverbes 20-27, l'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit vient vivre en vous. Il illumine votre esprit pour vous guider, pour vous guider. Maintenant, retournons à Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Allez au verset suivant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Voyez-vous, quand vous recevez le Saint-Esprit, il dit que vous n'êtes plus dans la servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous ne devriez point vivre dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». OK. L'esprit lui-même, c'est la traduction King James. Il s'agit d'une vieille traduction anglaise qui mentionne l'esprit comme étant une chose. Car l'esprit de Dieu, le mot « esprit » est traduit à partir du mot qui signifie « souffle ». Ce n'est pas pour autant qu'on devrait parler de l'esprit comme il s'agissait d'une chose, puisque le Saint-Esprit est bel et bien une personne. OK? OK? L'esprit lui-même rend témoignage. À qui? À notre esprit. Voyez? Que nous sommes enfants de Dieu. C'est la chose la plus importante dans votre vie, que vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature. Votre nature spirituelle. Votre unité avec Dieu du fait que vous soyez né de nouveau. Vous avez la même nature que lui. Donc, si le Saint-Esprit doit rendre témoignage de la chose la plus importante de votre vie à votre esprit en vous, à combien plus forte raison le fera-t-il pour les choses de la vie? C'est ce en quoi Dieu veut vous guider. Il rend témoignage à votre esprit que vous allez ou non dans la bonne direction. Il rend témoignage à votre esprit de faire ce choix ou de ne pas faire ce choix. Il rend témoignage à votre esprit. Mais la plupart des gens ne savent pas cela, car ils n'ont jamais éduqué leur esprit. Ils ont éduqué leur intelligence. Ils ont entraîné leur corps. Ils n'ont jamais éduqué leur esprit. Et votre esprit humain peut être éduqué, de même que votre intelligence peut être éduquée. Retournez au verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il rend témoignage à notre esprit, car il vit en vous. Regardez cela une seconde fois. Allez à l'évangile de Jean, chapitre numéro 14. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Évangile de Saint Jean. Oui, à partir du verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il... » Maintenant, c'était Jésus qui parlait à ses disciples avant sa mort, avant sa crucifixion, avant son ascension, etc. Ok? Donc, c'était avant la venue du Saint-Esprit. C'était avant qu'il ne vienne le jour de la Pentecôte pour commencer son ministère. Jésus a dit à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. » Vous voyez? Il est écrit, « Parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. » Le monde ne le connaît pas, car il ne le voit pas. Pourquoi? Voyez-vous, le monde vit dans le règne des sens. Il se fie seulement à ce qu'ils peuvent voir ou entendre, ce que leurs sens disent, etc. Ils ne peuvent pas appréhender les réalités spirituelles. Il dit, « Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Gloire à Dieu. Voyez, parce qu'il n'était pas encore venu, il a dit, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Il a dit, « Le Saint-Esprit sera en vous quand il viendra. » Et ensuite, peu de temps après cela, il est décrit dans Actes chapitre 2. Ok, Actes chapitre 2, commençons à lire à partir du verset 1. Actes chapitre 2, c'est le moment où le Saint-Esprit est enfin venu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, c'était une période de fête, ok? C'était le jour J, c'est ce dont il parle ici. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient là, près de 120 d'entre eux. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Gloire à Dieu! Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Lisez cela. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et commencèrent à parler en d'autres langues. Alléluia! À parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en eux. C'est arrivé comme Jésus l'avait dit. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour qu'ils vivent en eux. Alléluia. Et maintenant, le Saint-Esprit vit en vous et vous guide. Amen. Il vous conduit et vous guide. Les apôtres ont démontré ça. Ils ont compris cela. Ils ont vécu en étant guidés par le Saint-Esprit. Pouvez-vous aller dans le livre des Actes et au chapitre 13 et lisez à partir du verset 1. Merci. Ok, verset 2. Maintenant, retournons au verset 2 encore. Il dit qu'alors que ces docteurs et prophètes étaient à Antioche, pendant qu'ils rendaient ministère au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous voyez, le Saint-Esprit a parlé. Comment le Saint-Esprit a-t-il parlé? Évidemment, à travers l'un d'entre eux. Vous voyez, c'était une déclaration prophétique, ok? Maintenant, vous pouvez vous familiariser avec ça alors que vous lisez en profondeur le livre des Actes. Vous voyez les manifestations du Saint-Esprit et comment il leur rendait ministère. Maintenant, la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est l'importance du Saint-Esprit et comment il a guidé le corps de Christ, le peuple de Dieu, dans le livre des Actes. Ils dépendaient du Saint-Esprit, qui leur parlait, qui les guidait, leur donnait des instructions. Allez au chapitre 8. Regardons cela. Livre des Actes, chapitre 8. Lisons verset 29. Il s'agit d'un jeune homme nommé Philippe, qui est devenu un évangéliste. Il était d'abord un diacre. Et maintenant, lisez cela pour moi. 1, 2, 3. L'Esprit a dit à Philippe. Où était l'Esprit? En lui. L'Esprit était en lui. Le Saint-Esprit lui donnant une instruction. Dans son esprit. Pas dans son intelligence. Vous savez, il y a des gens qui disent, « Oh Dieu, si tu veux que je passe par cette porte, alors ferme toutes les autres portes. Et alors seulement, je saurai que c'est ton choix. » Est-ce qu'il a déjà dit qu'il fermerait des portes? Est-ce que c'est dans la Bible? Il a seulement dit qu'il ouvrirait une porte pour vous. Ok? Il n'a pas dit qu'il allait fermer des portes. Donc le problème d'un chrétien pourrait être d'avoir 5 portes ouvertes et de dire, je ne sais pas laquelle emprunter. Dieu a dit qu'il m'ouvrirait une porte. Et c'est fort possible que l'une d'elles vienne de Dieu. Peut-être qu'aucune ne vient de Dieu de toute façon. Ou bien supposons qu'il y ait 5 portes et tu veux déterminer laquelle vient de Dieu. Est-ce que tu vas dire, « Oh Dieu, ferme 4 portes et laisse-en une ouverte ?» Cela n'a aucun sens de prier comme ça. Juste parce que, en fait, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu, « Seigneur, si c'est toi, ouvre-la et j'y marcherai. » Il ne fonctionne pas comme ça. Imaginez ceci. Imaginez si Moïse avait dit à Dieu, « Ouvre la mer rouge si tu veux que nous allions dans cette direction. » Qu'est-ce qui serait arrivé? Non! La mer Rouge était déjà là. Et ils se demandent, que va-t-on faire? L'armée de Pharaon arrive. Ils vont nous massacrer. Le peuple pousse des cris. Moïse, que faire? Et Moïse prie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dis au peuple de continuer à marcher. Continuez par où? La mer Rouge est juste là. Continuez à avancer, la porte est fermée. Imaginez s'il avait dit, « Ok, Dieu, je continuerai à marcher s'il y a un chemin. Il n'y a pas d'issue. » Vous ne bougez pas juste parce que la porte s'ouvre d'abord. La foi n'attend pas que la porte s'ouvre. Si la porte est fermée et que Dieu dit que c'est la voie, vous allez vers cette porte. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre avec Dieu. Vous faites ce que l'Esprit dit, pas ce que disent vos sens. Ok, j'ai eu 3 admissions. Laquelle je prends? Je prendrai celle qui... Pensez à ça. Gloire à Dieu. Celle qui vient en premier? Vous savez, il y a des gens qui disent ce truc avec Dieu. J'aime pas ça. Je crois que quand je prends une décision, Dieu va juste, peu importe la volonté de Dieu, il va me l'accorder. Je fais tout ce qui me passe par la tête. Je n'implique pas Dieu. Tu n'impliques pas Dieu? Vraiment? Livre des Psaumes, chapitre 9. Gloire à Dieu. Vous savez, dans votre vie, vous devez vous décider. Décidez-vous de vivre en tant que chrétien. Si vous n'êtes pas un chrétien, par exemple, si vous n'êtes pas dans l'armée, vous n'avez pas à suivre les règles de l'armée. Vous n'avez pas à le faire. Mais dès le moment où vous vous enrôlez, que se passe-t-il? Vous êtes sous l'obligation de faire ce qu'ils disent. Psaume 9. Verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. N'oubliez pas Dieu. Les méchants dont il est question ici, j'aimerais que vous le compreniez. Voyez-vous, c'est très différent. La manière dont Dieu voit les gens et la manière dont les êtres humains se voient. Vous vous direz, « Oh, les méchants dont il est question, ce sont ceux qui prennent des armes pour tuer des gens. Celui qui, voyez, ça c'est l'homme naturel décrit comme méchant. » C'est ce que vous pourriez penser. Ensuite, vous voyez une autre personne gentille et vous pensez, ça c'est quelqu'un de bien parce qu'il va à l'église. Ce n'est pas ainsi que Dieu le voit. Pour Dieu, les méchants sont ceux à qui la parole est donnée et qui ne la suivent pas. C'est ainsi qu'il les voit. Il les appelle méchants parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Gardez cela à l'esprit. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Maintenant, tous ceux qui n'ont jamais connu Dieu font partie de toutes les nations. Vous voyez ça? Donc les méchants dont il est question sont ceux qui sont dans la maison de Dieu. Vous pourrez dire vraiment? Je vais vous le montrer. Ecclésiaste, chapitre 9. Allez au verset 10. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur. Pensez à ça. Et alors j'ai vu les méchants ensevelis. Et puis retournés. Et ceux qui étaient venus du lieu du Saint. Ça, c'est la maison de Dieu. Ceux qui étaient venus du lieu du Saint. Et qui avaient bien fait être mis en oubli dans la ville. Cela aussi est vanité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ici? Et alors j'ai vu les méchants ensevelis et puis retournés, et ceux qui étaient venus du lieu du Saint. Ils allaient dans la maison de Dieu et rentraient chez eux. Ils venaient et rentraient. Vous savez, ils étaient là dans le lieu saint. Et qui avaient bien fait être mis en oubli dans la ville. D'abord, il dit, leur fin, ils seront oubliés. C'est ça, leur fin. Ensuite, il dit que les méchants se tourneront vers le séjour des morts, dans le verset que nous avons lu. Il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Donc, j'essaie de vous dire, ces méchants, ils sont allés dans le lieu saint. Il dit, ils sont venus et sont partis du lieu saint. Et ceux qui oublient Dieu. Quand vous prenez une décision, de là où vous irez vivre, est-ce que vous vous demandez s'il y a une église? Est-ce que vous pensez à Dieu? Ou vous oubliez Dieu? Il y a des choses dont les gens ne se préoccupent pas. Ils se fichent de cela. Ils prennent des décisions stupides qui amènent la frustration dans leur propre vie. Vous pourriez ne pas vous sentir frustré en tant que personne, à ce moment, vous pourriez l'aimer, être content de ça, et oublier Dieu. Mais ça vous montre la fin de telle personne, ceux qui oublient Dieu. N'oubliez pas Dieu, placez-le au-dessus. Saviez-vous qu'il y a des gens, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont des soucis dans leur corps, la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'appeler le médecin. Ils oublient Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu. Le docteur a dit, on lui pose des questions sur son état, il répond, le médecin a dit. Je suis allé chez le docteur tel ou tel et il a dit, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et vous lisez à propos du roi Asa dans la Bible. La Bible dit qu'il mourut de sa maladie parce qu'il consulta les médecins et non pas Dieu. Est-il mauvais de consulter les docteurs? Non, placez Dieu en premier, c'est ce que je vous dis. Placez Dieu en premier. En fait, la plupart du temps, si vous placiez Dieu en premier, vous n'aurez même plus besoin d'aller voir le médecin. Le plus souvent, les docteurs se trompent. Le diagnostic est faux. Et ils commencent une opération qui n'était pas nécessaire. Pourquoi les gens se retrouvent-ils dans des situations aussi mauvaises? Tellement de chrétiens qui passent par de telles choses. Ils font passer leur corps par des choses inutiles. Ou d'autres qui vivent sous traitement, continuellement, en permanence, sous médicaments, jour après jour. Ils en ont toujours besoin. Ils en sont toujours dépendants, dès le matin, l'après-midi et le soir. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Comment en sont-ils arrivés là? Le docteur a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, ils oublient Dieu. Il n'est pas dans l'équation. Ils oublient Dieu. J'ai décidé d'entreprendre cette activité. J'ai décidé de démissionner de cet emploi. J'ai décidé...
Tu as décidé? Qui t'a conduit dans cette décision?
Avez-vous consulté Saint-Esprit?
Oh non, pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas entraînés pour faire ça. Ils n'ont jamais pensé à ça.
Ils n'ont pas été formés pour ça.
Vous voyez, certains sont des bébés spirituels. Ils ne sont pas éduqués sur les choses de Dieu. Mais la plupart sont charnels. C'est ça le problème. Ils sont charnels et mondains. Ils ont besoin d'être enseignés sur les choses de Dieu. En tant que chrétien, il y a une manière de marcher avec Dieu. Il y a une manière de travailler avec Dieu. Vous ne dites pas ce que votre pensée vous dit. Je vais lui dire ce que je pense. Lui dire ce que vous pensez. Vous n'êtes pas conduit par votre pensée. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'allez pas lui dire ce que vous pensez. Vous allez lui dire ce que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. C'est ainsi qu'un chrétien vit. Non, je vais lui dire ce que j'ai dans le cœur. Ce que j'ai dans le cœur, ça signifie que vous êtes vraiment un idolâtre. Vous vous adorez. Vous êtes votre propre Dieu, mais vous ne le savez pas. Un vrai chrétien est envoyé de Dieu. Il est la voix de l'Esprit de Dieu. Il donne libre cours à la volonté de Dieu. Il exprime la justice de Dieu. C'est ça, un vrai chrétien. Il ne va pas partout pour dire ce qu'il pense. Les gens me demandent souvent, « C'est quoi votre opinion ?» Je n'ai pas d'opinion. Gloire à Dieu. Je n'ai pas été envoyé pour faire connaître mon opinion. J'ai été envoyé pour dire l'opinion de Dieu. Vous dites ça parce que vous êtes un prédicateur. Non ! La Bible qui a été écrite pour les prédicateurs a également été écrite pour tous les chrétiens. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, tous les prédicateurs qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'il a dit ? Ou il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des prédicateurs de Dieu ? Fils de Dieu. Fils de Dieu. J'ai juste pensé à vous introduire le sujet aujourd'hui et vous donner un appétit pour commencer à penser à être conduit par l'Esprit de Dieu dans votre vie. Ok ? Cela vous emmènera de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Oui, aucune personne conduite par le Saint-Esprit ne peut échouer. Vous serez toujours victorieux, en dépit de vos circonstances. Vous vivrez dans la joie, vous serez un oasis dans un monde troublé. Alléluia. Pouvez-vous dire Alléluia ?